immersion dans le festival des jeux vidéo et du numérique, en partenariat avec la mairie et le service jeunesse de Pézenas. Reportages, débats, entretiens, retrouvez toutes nos émissions sur rphfm.org.
Moi, c'est Monsieur Torizano Alexandre, directeur de la structure studio de développement basée sur Carcassonne. Donc, on développe des applications en réalité augmentée, réalité virtuelle, des jeux sérieux et des jeux vidéo aussi. On propose aussi des formations sur une plateforme en ligne, une formation 100% distancielle, sur spécifiquement le développement d'applications avec un moteur de jeu Unity, qui est le moteur de jeu qu'on utilise justement dans le développement. On est une équipe basée à la Maison de l'Innovation, donc dans le centre de Carcassonne, une start-up incubée depuis 2 ans et demi à peu près. 4 personnes salariées en interne et une équipe de 4 externes, des prestataires qui vont être formateurs, développeurs ou artistes 3D. Donc on a toutes les compétences en interne pour développer les applications et ou les formateurs pour justement animer les formations.
Donc créateur de jeux vidéo AR, VR, XR, Serious Game et jeux mobiles, donc pour dire en gros sur la réalité augmentée, vous avez même un portail de réalité augmentée.
C'était ce qu'on appelle une preuve de concept, c'est-à-dire qu'on prend le smartphone, on pose ce portail au sol en réalité augmentée, et à partir de là, on rentre dans le portail et on peut visiter un monde, que ce soit un studio, que ce soit un monde complètement fantastique. Et du coup, ça permet de montrer un peu la puissance de la réalité augmentée, puisqu'on va justement augmenter ce qu'on voit à travers la caméra. Donc par exemple, on peut reconstituer une maison, pourquoi pas. Donc ça pourrait être une application directe, ce serait l'architecture. On a un projet d'architecture, on veut voir l'intérieur de sa maison, on pose ça au sol et on va aller visiter le futur de sa maison, en fait les plans futurs de sa maison, et on se rend compte à l'échelle 1, en fait, ce que ça pourrait être. Donc c'était une preuve de concept, ouais.
Ici, pour le Festival du jeu vidéo et numérique de Pézenas, vous avez ramené avec l'équipe quelques matériels. Est-ce que vous pouvez nous les décrire ?
Alors, un grand merci déjà à la municipalité et à toute l'équipe qui s'occupait de ce festival, donc qui nous a conviés sur place. Et nous, on a l'étiquette aujourd'hui, réalité augmentée, réalité virtuelle, c'est vrai. Donc on s'est dit, on va ramener 2-3 casques, donc des casques MetaQuest, pour ceux qui connaissent. Et à partir de là, on propose aujourd'hui des expériences qui vont prouver le pouvoir immersif en fait, de la réalité virtuelle. Contrairement à la réalité augmentée, où justement là on est toujours avec le smartphone et on voit le réel, dans la réalité virtuelle on ne voit plus le réel, on est complètement en immersion, et là on propose justement d'amener les personnes en haut d'un gratte-ciel, de les faire marcher sur une planche dans le vide, et pourquoi pas de sauter dans le vide.
Il y en a peu qui ont l'air de sauter dans le vide.
Alors on a un petit peu tout, effectivement ça dépend des gens et de leur crainte du vide. Ce qui est hallucinant, c'est que on caste, c'est le terme technique, ce qui se passe dans le casque, on le rediffuse en fait dans un écran que tout le monde voit, et malgré ça les gens, même s'ils voient ce qui va se passer, une fois qu'on leur chausse le casque, bah, en fait il y a la peur qui revient. Donc c'est peu importe qu'on ait, eu le temps de s'y habituer ou pas avant, une fois qu'on est dans le casque et qu'on est en train de voir le vide sous ses pieds, bah, on y croit. Ce que le regard voit, le cerveau finit par le croire en fait.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces expériences immersives ?
Alors ce qui m'intéresse justement pour toute la chaîne de développement sur cette partie-là, réalité virtuelle, c'est justement ce pouvoir immersif, ce qu'on peut en faire. Donc tout ce qui est prototypage, tout ce qui est formation, tout ce qui est anticiper des choses. C'est-à-dire on va pouvoir vivre des expériences sans que ça n'atteigne à la santé de la personne ou à l'intégrité de la personne, puisque ça sera virtuel. Mais il y a aussi le fait des visites à distance, c'est-à-dire qu'on peut reconstituer et proposer des visites tout en étant en fait pas sur place. Alors ça c'est intéressant. L'aspect formation aussi c'est intéressant. Par exemple, il vaut mieux tuer son patient en virtuel plutôt qu'en vrai quand on est médecin. Donc c'est aussi une des applications. Il y a aussi une autre application qui est intéressante en termes de prototypage, c'est que par exemple si on veut monter une voiture ou un modèle de meuble, on va pouvoir le modéliser, le tester, notamment la voiture, regarder si elle est jolie, si les formes sont correctes, si les volumes sont corrects, avant même de le fabriquer. Donc on va avoir un coût induit par la modélisation, mais par contre, on n'a pas à la fabriquer en réel. Donc encore une fois, cette virtualisation est intéressante en amont d'un projet, ou en formation, ou pour soigner des phobies notamment aussi. Là, on a aujourd'hui le cas de la peur de la hauteur, le vertige, mais on parlait tout à l'heure avec certains spectateurs aussi de la peur des araignées notamment, donc ça peut être aussi un traitement, enfin une application utile contre toutes ces phobies en général.
Vous êtes en lien avec des cabinets ? Ça existe le soin numérique ?
Alors sur Carcassonne, il y a déjà, je crois, quelques mois, on avait rencontré une personne qui était intéressée et qui utilise déjà les casques de réalité virtuelle pour soigner des phobies. Il se trouve que lui, pour l'instant, c'était ce qu'on appelle du 3 degrés de liberté, c'est-à-dire qu'on peut bouger à gauche, à droite sa tête, mais on ne peut pas déplacer son corps. Donc là, nous, ce qu'on a comme casque, c'est les fameux casques MetaQuest. C'est pas les seuls qui font ça, mais on est à 6 DOF, donc 6 degrees of freedom, 6 degrés de liberté. Et là, on peut carrément se déplacer. En fait, cette personne est revenue en contact, enfin a repris contact avec nous récemment, et elle voudrait, je pense, développer quelque chose un peu plus avancé maintenant sur la prochaine étape en fait d'immersion. Et donc on a effectivement, c'est pour ça que je me permettais d'en parler tout à l'heure, hein, c'est que du coup, je pense qu'on va arriver à des applications de ce type-là de plus en plus. Alors il y a ça, il y a aussi la préparation physique, j'y ai pas pensé tout à l'heure, pour le sport. C'est aussi des applications directes, puisqu'on peut avoir l'eye tracking. Donc avant toute chose, pour moi, ce qui m'intéresse au-delà du jeu pour le casque de réalité virtuelle, ce qui m'intéresse vraiment, c'est toutes les applications qui auraient un sens, à bon escient en fait, utiliser le casque à bon escient. Le jeu, pour moi, il est annexe là dans la réalité virtuelle. Pour moi, c'est pas là où, en tout cas, j'amènerais le plus la structure. Ça n'empêche pas qu'on aime faire des jeux vidéo, mais l'outil, pour moi, il vaut le détour pour tout ça, tout ce qu'on vient de citer, les phobies, les préparations sportives et tout ça.
Vous organisez, il me semble aussi, des visites virtuelles à Carcassonne. C'est quoi le concept ?
À Carcassonne, c'est en cours de travail pour l'instant. On a développé ce qu'on appelle une preuve de concept pour le fonds de dotation. Où là, en fait, avec le casque de réalité virtuelle, toujours, on va proposer, mélanger en tout cas l'histoire avec le jeu. Il se trouve qu'il y avait, par exemple, à l'époque, après le Moyen-Âge, il y avait ce qu'on appelle la journée du roi de la papagaie. Donc la personne qui touchait à l'arc l'oiseau qui était perché au-dessous de la tour était exemptée d'impôt pendant un an. Et du coup, on a proposé donc de raconter cette histoire tout en participant, enfin en pouvant justement tirer à l'arc en virtuel toujours, ce fameux oiseau en tout cas qui est perché sur la tour de la papagaie. Et donc on mélange, et c'est sur ça que, en tout cas sur le culturel et l'historique, on aime beaucoup travailler, c'est mélanger le ludique et l'histoire, parce que pour ma part, je suis persuadé qu'on apprend encore plus ou mieux en tout cas si on joue, on allie les deux en fait. C'est-à-dire que ça permettrait probablement aux adolescents, notamment, qui sont pas très férus des pancartes à lire, d'entendre certains détails sur l'histoire et du coup de retenir certaines choses après l'expérience parce qu'ils sont passés par le jeu.
À partir de quel moment vous avez pris, vous avez eu de l'engouement vers le numérique ? Le thème du festival est la parentalité numérique et donc qui s'intéresse à la question de la jeunesse. Est-ce que vous, c'est aussi dans votre jeunesse où vous avez commencé à avoir confiance dans la question du numérique ?
Alors par rapport exactement, quand est-ce que j'arrive à l'envie de faire du numérique ou comment ça arrive dans ma vie, oui, complètement. C'est assez simple, ça part de mon enfance en Afrique. Mon père a à l'époque un ordinateur Oric, donc où on a des cassettes pour jouer de lancer un jeu. Et je trouve les jeux limités, je me dis, alors que c'était naturel à l'époque qu'ils soient limités, hein, qu'on s'entende bien, mais je sens cette volonté de créer quelque chose. Et du coup, j'ai grandi, fait mes études, je suis passé à l'éducation nationale en tant qu'enseignant, je me suis intéressé à l'informatique, je me suis auto-formé, mais j'avais toujours cette envie de créer quelque chose. Et c'est comme ça que naturellement je suis arrivé au numérique. J'ai fait un premier site internet sur la magie, parce que je faisais du close-up en Guadeloupe. Ensuite, je me suis vraiment formé en licence auprès du CNAM Montpellier. Et à partir de là, j'ai démissionné de l'éducation nationale. J'ai commencé à coder des propres systèmes, applications, avoir des clients, en étant micro-entreprise. Et puis un jour, j'ai monté une équipe en me disant, on va aller plus loin, parce qu'à plusieurs, on pourra faire un petit peu tout ce qui est possible et inimaginable à l'heure actuelle. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à Event Horizon Carcassonne en 2023.
Est-ce que vous avez des partenaires en particulier sur Event Horizon ?
Alors on est une start-up dite en accélération sur la Maison de l'Innovation, puisqu'on est incubé à la Maison de l'Innovation. Et de ce fait, on a eu des prêts de lancement, donc des prêts, ce qu'ils appellent recherche et développement. Surtout le premier où c'était... donc la BPI qui subventionnait une partie d'un projet en fait, et ça nous a permis de lancer ce projet. Et ce premier projet, bizarrement, c'était pas une application, c'était un site internet sur la formation. Donc on a commencé à proposer nos services de formation avant d'avoir des premières applications concrètes développées.
On a beaucoup parlé de prévention, de faire attention par rapport à l'utilisation du numérique des jeunes, mais il y a un autre volet sur lequel j'aimerais revenir, ce qui est celui du potentiel énorme du numérique, qu'on a quand même abordé avec David Gentilla, par rapport aux offres d'emploi de folie et par rapport aux cursus auxquels pourraient être amenés les jeunes par rapport au numérique. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus sur l'évolution du numérique pour les jeunes et sur comment ils peuvent l'aborder ? Est-ce qu'il y a des écoles qui sont pour eux ?
Alors, le numérique est partout. À l'époque, quand moi je fais mes études, je voulais faire informatique déjà, et c'était que les mathématiques, entre guillemets, qui proposaient ces études. On n'avait pas toutes ces superbes écoles qui sont là actuellement en place. On en a rencontré aujourd'hui, évidemment. Il y a vraiment beaucoup plus d'offres qu'à l'époque, il y a 20 ans. Là où c'est compliqué pour un jeune, c'est je veux faire quoi du numérique ? C'est très important parce que être informaticien, ça veut rien dire, ça veut plus rien dire maintenant. Il y a beaucoup trop de diversité, c'est comme dire je suis physicien, il y a beaucoup de thématiques, c'est comme dire je suis littéraire, il y a beaucoup d'autres, enfin c'est divers. Et donc du coup, je pense que le plus grand défi pour eux, et pour nous bien sûr aussi, c'est bien leur expliquer c'est quoi les différents métiers pour l'instant, c'est quoi les métiers du futur, vers quoi on va tendre, et qu'ils comprennent un petit peu ces différences-là, et aussi dans quelle entreprise ils veulent se situer. Est-ce qu'ils veulent être dans une petite entreprise, donc avec des petits moyens, des plus petites équipes, et dans ces cas-là, il faudra qu'ils aient 3-4 postes en une seule casquette, donc on dit plutôt multicasquette, ou est-ce qu'ils seront dans une grande entreprise où on va faire qu'un seul métier, comme par exemple faire que des modèles 3D et jamais d'animation. Donc le plus gros défi, c'est leur faire comprendre que faire des jeux vidéo, ça veut rien dire en soi. Faire une application, ça veut rien dire. Être designer, oui, mais est-ce que c'est du web ? Est-ce que c'est de l'infographie pour la publicité ? Est-ce que c'est pour l'architecture ou des choses comme ça ? Donc le panel est très très grand et il faut vraiment qu'il y ait cette acculturation et des jours comme on fait aujourd'hui où ça leur permet de comprendre un petit peu, comme par exemple la différence réalité augmentée, réalité virtuelle. C'est la même chose. On croit savoir et en fait, on n'en a jamais vu. On voit des choses à la télé et en fait, c'est pas la réalité. Donc ça permet de rattraper un peu, de remettre un peu tout le monde au diapason. Et je pense que ces discussions, même le débat auquel tu as participé tout à l'heure, il est essentiel.
On voit que vous nous parlez de portes aussi, peut-être qu'on ne suspecte pas, sur l'utilisation du numérique vers le bien-être personnel, vers le corps, vers aussi des dimensions historiques, vers l'esprit critique. Comment vous abordez justement toutes ces nouvelles dimensions du numérique ?
Alors, vers le bien-être, pour moi, c'est une application directe qui est déjà en cours. Le futur nous amène, en tout cas, à tenter de nous amener, on va dire, on a eu cette tendance énorme l'année dernière, à partir où il y a 2 ans, il y a une bulle qui a explosé, c'était le fameux métaverse. Là, ça me pose encore question. Donc, moi, j'interroge beaucoup dans mon métier en permanence l'éthique. On parle de bioéthique, j'aimerais bien qu'on parle de numérique éthique aussi. J'aimerais qu'il y ait des studios, je sais qu'il y en a qui se positionnent, il y en a qui ne se prendront jamais cette voie-là, mais j'aimerais bien un jour qu'on puisse parler entre nous avec des studios d'un label numérique éthique pour éviter justement que nos générations futures fassent n'importe quoi ou soient embarquées dans des trucs complètement futiles et qui enlèvent un peu l'humanité, parce que le risque de la réalité virtuelle, pour moi, c'est justement le décrochage par rapport à la réalité. Je sais pas si tu vois le film Ready Player One. Donc celui-ci où on finit par vivre que dans le virtuel, pour moi c'est un peu la tendance vers laquelle il ne faudrait pas qu'on aille en fait. Il faut toujours ramener vers le réel, c'est important. Il faut resituer à l'outil et pas que ce soit en permanence ça. Donc pour le coup, si on fait n'importe quoi, bah, ça sera contre les soins et contre le bien-être, alors que ça pourrait justement être un outil dédié ou en tout cas qui a un focus sur le bien-être et sur l'éthique, ça me semble essentiel.
Qu'est-ce que vous avez mis en place chez votre horizon justement par rapport à cette éthique ? Est-ce que vous pensez que les jeunes qui veulent devenir développeurs, justement travailler sur le code, devraient revenir dans les entreprises qui vont les embaucher avec cet esprit-là ?
Je pense oui qu'il faudrait qu'ils arrivent avec cet esprit-là. S'ils ne l'ont pas, c'est pas grave. À la limite, ça peut se discuter, se travailler, se sensibiliser après être rentré dans une structure. Je pense aussi que c'est en amont, avant même de passer son bac, par exemple, en philosophie notamment, ça peut être un instant intéressant pour discuter de tout ça. Exactement comme la bioéthique, hein. On s'est posé la question sur le clone, on s'est posé la question sur les OGM, il faut continuer à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Hein. Donc oui, j'ai envie de dire, c'est à tous les étages qu'il va falloir y penser, quoi. Il faut des rappels systématiques et que ce soit mis sur le tapis ouvertement. J'ai rencontré une structure à Perpignan notamment et on était raccord avec cette idée-là. Elle fait aussi de la réalité virtuelle. On a l'impression qu'il y a un vide pour l'instant juridique, il y a un vide global sur cet aspect-là. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on pose ça sur le tapis tous ensemble. Oui, c'est sûr et certain. Et alors, si la personne arrive à prendre entreprise et que ce n'est pas fait, bah, c'est dans les discussions, c'est dans les choix des projets aussi. On ne comprend pas des projets qui n'ont pas d'éthique, à mon sens en tout cas. Et tant pis si on passe à côté d'un énorme contrat à 6-0, ce n'est pas grave. On conservera l'éthique quoi qu'il arrive, tant pis.
Ça fait partie aussi des critères de sélection des salariés que vous avez actuellement ?
Oui, ça peut. Dans notre sélection, ça va être dans la discussion qu'on va ressentir à travers la discussion si on est raccord sur l'idée, en fait, en tout cas. Ouais.
J'ai lu que votre méthode se voulait participative. Quand on pense numérique, on peut penser aussi également isolement, chacun derrière son espace numérique personnel. Et chez Yvonne Thérezon, qu'est-ce que vous entendez par participatif ?
À quel instant ? Sur le site internet, notamment. Alors, participative, il y avait principalement, je pense, aussi de la partie du client, c'est-à-dire comment ça se passe dans un rapport de mission ou de client. C'est-à-dire qu'on va donner beaucoup de visuels, des retours. En fait, tout le monde va travailler un peu de cette manière-là. C'est un peu la méthode moderne. On ne travaille pas en méthode en V dans un projet, mais plutôt en agile. Donc on a nos premiers steps qu'on atteint. On va les soumettre au client et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'allers-retours. Participatif ensuite dans l'aspect de la formation, c'est être tout le temps par contre à l'écoute. Donc ça correspond un peu à ce qu'on vit avec le client. C'est conserver cette écoute, pas être fermé aux critiques. Avancer, un peu comme quand on fait un jeu vidéo et qu'on soumet ça à des testeurs, des bêta-testeurs, on est réceptif à la critique, qu'elle soit positive ou négative dans tous les cas.
Pour revenir sur la parentalité numérique, pour vous, qu'est-ce qu'une peut-être une bonne parentalité numérique ou qu'est-ce que la parentalité numérique de demain ?
Il faut que les parents prennent conscience des bienfaits et du mauvais aussi, des deux côtés, du numérique en général. On ne pourra plus s'en passer du numérique, il faudrait tout revenir en arrière, c'est sûr. Le numérique, c'est un outil excellent, mais il faut savoir s'en servir. Il faut savoir se limiter aussi, bien cadrer. Les parents, il faut qu'ils surveillent, il faut qu'ils vérifient ce qu'on regarde, enfin ce que fait le jeune, à quel âge il fait ça, est-ce que c'est vraiment de son âge. Il faut continuer à jouer ce rôle de père fouettard, de toute façon. Il faut venir un peu gendarmer, il faut continuer à éduquer, parce qu'on a l'impression qu'ils savent tout faire et que ça leur fait rien, plus rien du tout, parce qu'ils voient plein d'images partout. Mais en fait, non, c'est faux. Il y a cette responsabilité des parents de continuer à éduquer les enfants. Et de plus en plus sur cet aspect, ça va être de plus en plus prégnant de toute façon. C'est déjà le cas, même moi j'ai mon smartphone, je suis tenté de le regarder tout le temps, j'ai un ordinateur, en plus je travaille en permanence dessus. Donc il faut se gendarmer aussi de se dire, ok là je décroche, mais volontairement, et je vais aller me faire une bulle de pas de numérique du tout pendant ce week-end ou pendant une soirée ou une après-midi entière. C'est hyper important. À l'inverse, et dans l'autre sens plutôt, les enfants éduquent les parents au numérique de demain. Donc on peut pas tout arrêter, tout bloquer, tout dire c'est de la faute aux enfants ni aux parents. C'est un peu ce qu'on discutait tout à l'heure pendant le débat. Les parents, ils consomment énormément d'heures de smartphone. Le chiffre était édifiant tout à l'heure. Du coup, ça se construit à deux. Les parents, pour gendarmer, dire attention, c'est pas notre génération, mais on vous comprend, mais attention à pas faire que ça non plus, parce que c'est le que ça qui est dangereux. Et les enfants qui viennent aussi nous ouvrir aux portes de demain, le numérique de demain, les réseaux sociaux, qu'est-ce qui s'y passe, histoire que nous, on soit pas non plus complètement déconnectés de ce qu'ils sont en train de vivre.
Donc rester à l'écoute aussi et beaucoup de ces jeunes qui vont sûrement nous apporter aussi beaucoup de solutions à l'avenir en ce qui concerne le numérique. Vous me disiez aussi que vous préfériez que votre enfant code plutôt qu'il consomme un jeu vidéo de manière basique.
C'est vrai, c'est-à-dire que à l'époque quand on jouait aux jeux vidéo, on pouvait même pas sauvegarder sa partie. Donc on jouait une heure, deux heures et c'était terminé. Il fallait recommencer la partie d'ailleurs. Puis petit à petit, les jeux sont devenus hyper preneurs, très immersifs, même si c'est pas de la VR, et on peut jouer pendant 15 heures d'affilée, 12 heures, 8 heures, 6 heures, c'est déjà beaucoup. Et donc, on est sur un jeu, même si ça développe certaines compétences, comme on discutait avec une autre personne tout à l'heure, il ne faut pas oublier qu'on est, entre guillemets, ou pas, complètement passif. Donc du coup, on n'est pas dans la création. Sur certaines applications ou certains jeux vidéo, on est dans la création, mais elle est toute, somme toute relative parce qu'elle n'est que virtuelle. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est que j'aime bien aussi que on coupe et je préfère le voir en train de coder parce qu'au moins il crée quelque chose, il réfléchit et solutionne des problèmes. Plutôt que je vais prendre un cas typique, mais entre tuer des zombies qui n'a rien de créatif et se prendre la tête, ça, comment je fais pour que ça fonctionne, pourquoi est-ce que mon jeu lag et comment je le résous, ou simplement comment je fais une belle épée du médiéval si j'étais artiste 3D justement. Encore une fois, j'interroge le faire que ça. Si c'est faire que ça, ça me dérange. Si c'est pas que ça, dans ces cas-là, ok, il peut jouer, c'est pas un souci, au contraire, parce que c'est aussi un apprentissage. Et puis il y a des choses intéressantes, et puis ça reste du jeu, il faut jouer dans la vie, ça faut pas l'oublier. Mais par contre, il faut rester actif à côté et être créatif surtout. Il faut aller chercher ça.
Est-ce que tu aurais des logiciels de codage que pourraient utiliser les jeunes qui voudraient se mettre au codage, à ce merveilleux art du codage, trop souvent méconnu?
Alors le codage à partir de zéro, quand on est jeune, c'est pas simple. Je pense qu'il faut déjà travailler un petit peu ce qu'on appelle l'algorithme, donc faire des blocs. Alors ça, ils en font au lycée maintenant. À l'époque, moi, j'en faisais pas. Donc c'est ce qu'ils appellent Blockly ou Scratch. Donc on va mettre des blocs, des instructions logiques. On va faire une suite d'instructions. Ça permet déjà de réfléchir à est-ce que j'ai mis toutes mes instructions dans le bon ordre. Un peu comme une recette de cuisine, est-ce que j'ai bien mis le sucre dans mon gâteau avant de le mettre au four, par exemple. Donc c'est de la logique, c'est pas de la mathématique, c'est de la logique. Donc peut-être commencer par ça au début, mais très très vite ils vont avoir envie d'être créatifs. Donc il faut un rendu visuel, surtout qu'on est dans une société très visuelle, donc il faut du visuel vite vite vite. Et donc dans ces cas-là, il faut aller chercher des moteurs de jeu avec des packages, donc des blocs en fait déjà préfaits. Ce qu'on appellerait des frameworks peut-être, ou en tout cas des packages prêts à l'emploi. Et assez vite, il en existe avec le moteur qu'on utilise, qui s'appelle le 2D Game Kit. On télécharge Unity, on télécharge le 2D Game Kit et ensuite on va suivre des tutoriels. On va pouvoir commencer à s'amuser à faire du level design et avoir un visuel très vite. Donc ça, c'est agréable et ça commence à être une entrée vers le... pas tout à fait encore la programmation, mais au moins la construction d'une application et surtout d'un jeu vidéo. Et c'est une porte d'entrée intéressante pour moi. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de coder, on n'a pas trop de complexité, mais on commence à saisir les principes même ou les concepts même d'un jeu vidéo ou d'une application avec un rendu, hein, bien sûr. Donc la caméra, les boîtes de collision, les inputs clavier ou les inputs souris, donc les concepts importants. Et je pense après... quand on veut créer soi-même ensuite ses propres systèmes, on ouvre du code à ce moment-là. Et là, faut se former, quoi. Faut aller sur des sites comme le nôtre où on va apprendre à avoir les bases du tutoriel C#. Donc notre site, c'est makeyourgame.fun. Et là, on va avoir des bases de C#. Donc c'est des tutoriels gratuits. Hein. On va s'habituer à se former. On a d'autres sites du style Coding Game. Où là aussi c'est du visuel, on demande d'implémenter des choses et on voit le visuel tout de suite, est-ce qu'on a juste ou est-ce qu'on a faux. Donc ça, c'est une boîte de Montpellier aussi, c'est une start-up de Montpellier. Donc j'ai envie de dire, il faut y aller progressivement. Le plus gros défaut en général quand on veut créer quelque chose, en tout cas pour le jeu vidéo, c'est de vouloir taper trop haut, trop fort, trop vite. Donc par exemple, je veux coder Fortnite. C'est mon objectif, ça faut surtout pas faire ça. Donc nous, quand on a des apprenants qui ont des projets personnels, on leur dit commence déjà par faire un Pong, commence par faire un Tetris, c'est déjà très dur, et après tu monteras en niveau. Donc histoire d'y aller progressivement pour pas amener trop de complexité et surtout de rester dans la boucle du succès, de la réussite, pour continuer à avoir envie, parce que si on finit par se dégoûter, on arrête. Donc c'est ça qu'il faut éviter, c'est l'écueil principal.
Et est-ce que avec votre boîte, vous seriez intéressé par développer aussi des outils numériques pour les établissements scolaires?
Ah oui, bien sûr. C'est des outils, on appelle ça des serious games en fait. Ça serait principalement des serious games, amener des concepts tout en pratiquant un jeu vidéo. Donc c'est pour ça que ça s'appelle un serious game, jeu sérieux. Ça pourrait être aussi des outils de sensibilisation ou ça pourrait être aussi des outils pour visiter des choses, notamment en géographie, visiter à distance sans y être. Donc ça peut être des vidéos 360, ça peut être des reconstitutions, ça peut être aussi des reconstitutions de choses qui existent, mais aussi des reconstitutions de choses qui ne sont plus. Donc comment c'était avant. Ça peut être aussi des scénettes pendant les guerres de 14-18 ou des choses comme ça. Mais effectivement, on serait intéressé, on l'a déjà fait sur des actions d'apprendre à coder, mais pas d'application à proprement parler à destination de l'éducation nationale. Ouais. Pour l'instant, on n'en a pas, mais on serait bien intéressé, ouais, effectivement. Donc moi, je connais des personnes qui m'ont demandé si c'était possible de faire des visites de lieux, par exemple visiter les dunes du Sahara en drone, des choses comme ça, et on aurait ça dans le casque. C'est pas les idées qui manquent, après c'est à qui il faut demander et où est le budget. Voilà, c'est toujours les mêmes points qui vont venir nous bloquer nos projets, mais petit à petit, le chemin va se faire.
Message donc d'espoir pour le numérique, qu'est-ce qui pourrait donner envie aux parents, aux enfants un peu déprimés par l'usage du numérique à retrouver la foi au virtuel?
À chaque révolution, il y a eu ses pendants, le plus c'est le moins. Ce qui nous fait tous drôles quand on n'a pas grandi avec un smartphone dans les mains, c'est que c'est pas indispensable. Et alors que nous, nos jeunes, pour eux, ils ne peuvent pas se passer d'un smartphone. Ils vont partir avec, etc. Qu'est-ce qu'on dirait aux parents pour leur redonner confiance? C'est une très bonne question. Est-ce que j'ai une réponse sensible ou directe? Je ne suis pas sûr de l'avoir à ce jour. Moi, j'ai envie de dire, on ne perd pas espoir, c'est normal, c'est une question de génération. C'est juste une question de génération. Par contre, je reviens à ce qu'on évoquait tout à l'heure, on a un rôle à jouer. Donc il ne faut pas juste être en réticence et se cacher et faire l'autruche. Il faut quand même y aller au charbon, il faut quand même justement garder le contact, garder la communication avec les jeunes et continuer à s'informer soi-même pour ne pas avoir peur de l'outil qui est un bel outil. Tout dépend de ce qu'on en fait. Si c'est pour y passer toute sa journée à rien faire, non. Si c'est pour y passer quelque chose, du temps en tout cas pour avoir des informations, ne serait-ce que pour faire ses études. À l'époque, on n'avait pas autant d'informations sur Internet. Donc cet outil est excellent. L'outil est excellent, mais attention à ce qu'on en fait, attention à notre propre consommation et à celle de nos enfants. Donc il ne faut pas perdre espoir, au contraire. C'est comme tout, ça va doucement. La révolution s'est faite très très vite, la révolution numérique. On est passé de Internet, les smartphones, la réalité virtuelle en même pas 20 ans. Donc ça va très vite, c'est une question de temps, nos jeunes, il faut qu'ils digèrent un peu aussi tout ça. Mais il faut qu'on les aide, on ne peut pas les lâcher sans rien leur dire, c'est pas possible.
Merci Alexandre, on rappelle votre studio, le studio Event Horizon. Est-ce que vous organisez des visites guidées? Comment, pour ceux qui seraient intéressés aussi par suivre des formations, où est-ce qu'on peut vous contacter?
Alors soit vous allez directement sur le site makeyourgame.fun, donc ça s'écrit en anglais bien sûr, là-bas il y a une boîte, un formulaire sur lequel on va pouvoir poser des questions, soit vous nous appelez, donc moi c'est le 06 32 09 67 92, c'est Alexandre, je suis directeur de la structure et on vous accueillera de toute façon, en tout cas on vous répondra toujours avec, si on peut vous répondre et vous apporter des réponses, on le fera. Vous êtes bien sûr, pour ceux qui veulent passer, nous voir à Carcassonne, ne serait-ce que visiter les lieux, il suffit de nous avertir un petit peu à l'avance, qu'on soit sûr d'être là, parce qu'on travaille aussi en hybride, on fait des jours de télétravail et des jours de présentiel, comme ça on alterne un petit peu. Et donc il faut s'assurer qu'on soit là, mais c'est avec plaisir qu'on accueille ou qu'on fait des immersions de jeunes qui veulent savoir si le métier leur plaît, notamment en troisième. Donc on n'en fait pas toute l'année, on a des rushs où on se dit avant Noël on s'autorise, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter, mais ça ne sera pas toute l'année, il faut bien s'y prendre à l'avance évidemment.
Merci encore et voilà, continuons à fêter le numérique et le jeu vidéo. Bonne journée à tous.
Immersion dans le festival des jeux vidéo et du numérique, en partenariat avec la mairie et le service jeunesse de Pézenas. Reportages, débats, entretiens, retrouvez toutes nos émissions sur rphfm.org.